Bienvenue au Polysécur, épisode spécial Sécur. Je suis avec David Girard, qui a présenté lors du Sécur. Est-ce que tu peux te présenter légèrement?
Oui, bonjour. Mon nom est David Girard. Je suis Senior Product Manager chez Trendmico, métier national en cybersécurité. Je m'occupe de la plateforme Vision One, puis des solutions XDR.
Super intéressant. Puis, tu as profité de la tribune qu'on t'a donnée au Sécur pour venir un peu taquiner le Québécois moyen qui, des fois, a une perception un peu faussée de sa position ou son état en cybersécurité. Donc, on va passer un peu à travers les différents axes que tu as amené justement à la discussion pour qu'on puisse se comparer. Puis, j'espère que les gens vont pouvoir tirer une leçon de pouvoir s'améliorer parce qu'une fois qu'on connaît une faiblesse, on en profite pour s'améliorer par la suite et d'aller plus loin. Donc, le premier segment que tu avais abordé, c'est au niveau des attaquants. Comment on voit l'attaquant et comment on perçoit l'attaquant?
Au niveau de l'attaquant, on était au même niveau. On a les mêmes attaques comme telles. On a le même degré de réponse qui n'est pas tout à fait... très bon. On voit qu'il y a beaucoup plus de destruction. Les attaquants sont beaucoup plus rapides. Le Québec ne fait pas exception. Puis, on n'est pas mieux ni pire versus les attaquants au Québec.
Si on prend un point de vue peut-être plus spécialisé, parce que j'aime bien certains axes, parce qu'il y a certaines zones dont on va prendre le gouvernement américain, par exemple. Comment on se compare par rapport à eux de façon moins large, de façon plus spécifique?
Bon, là, par contre, si on parle du gouvernement américain, on a ceux qui sont au premier plan au niveau mondial. Là, on est un peu en arrière, c'est sûr. Mais grosso modo, versus toutes les organisations non gouvernementales ou gouvernementales, on est au même niveau que le reste du niveau mondial. Les gouvernements américains, ils ont plus de ressources. Ils sont mieux, mais ils ont quand même des victimes. Ils ont quand même des... Si on regarde Office of Personal Management, ils ont été breachés deux fois, coup sur coup. Puis, il y avait quand même des bonnes ressources. Okay? Donc, ça arrive aussi au gouvernement américain, mais eux sont une petite coche au-dessus du reste du marché, je dirais.
Oui, mais d'autres, le désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont beaucoup plus attaqués, justement. Ils sont plus prêts, mais plus attaqués. Fait que c'est un peu ce qu'on voit généralement en analyse de risque pour se placer à la bonne place. Eux sont en plein milieu d'un secteur très difficile de Chicago versus quelqu'un qui est en pleine forêt du Yukon. Fait qu'en termes de différence ou de capacité d'attaque, on ne parle pas de la même virulence de ce qu'ils ont à vivre. Puis ça l'amène à l'élément suivant au niveau de la résilience par rapport justement aux dites attaques.
Au niveau de la résilience, là, on est, je perçois le Québec comme étant un peu derrière la moyenne mondiale. Donc, à cause principalement du manque de préparation qu'on voit. Manque de préparation au niveau de la gestion des incidents, manque de préparation au niveau du BCP. Donc, Business Continuity Planning. Donc, au niveau préparation, on est en arrière. Ça nous enlève de la résilience à ce moment-là.
Très intéressant. Donc, puis, parce que ensuite, c'est le point suivant, c'est préparation, mais en même temps, justement, tu mentionnais dans ta présentation, il y a peut-être trop de monde en gouvernance, mais c'est étonnant qu'il y ait trop de monde en gouvernance, mais en même temps qu'il y ait le monde en termes de préparation comme BCP soit aussi faible, parce que normalement, on serait attendu que s'il y a tant de monde en gouvernance, on soit... du moins sur papier très près, mais ça ne descend pas.
Oui, on voit souvent des pyramides inversées au Québec. Donc, beaucoup de gens en haut de la pyramide, mais pour la sécurité opérationnelle, très peu de gens. C'est là qu'on a des top guns, on a du très bon talent au niveau hacking, au niveau défense aussi. Mais ces gens-là qui devraient être une armée dans l'organisation, ils sont quelques-uns. Tandis qu'on voit une disproportion en termes de budget et en termes d'allocation de ressources au niveau supérieur, au niveau de la gestion de risque et ainsi de suite. Puis c'est là qu'on voit un disconnect parce qu'on voit très peu de reprises après sinistre ou de plans de continuité des affaires. Même chose pour la réponse aux incidents parce que les pauvres personnes en bas sont inondées d'alertes et autres, puis ils n'ont pas le temps de planifier les playbooks ou les processus au niveau de la réponse aux incidents. Ce qui fait que tu n'as pas planifié d'avance, tu n'es pas prêt, tu n'as pas de préparation. Donc là, tu subis quand ça arrive. Ils n'ont jamais testé, par exemple, les plans de recouvrement des backups. OK, fait que là, quand ils font le retour, hop, les backups, on n'est pas capable de les restaurer. Ça ne marche pas. Ouh, ils n'étaient pas à jour. Fait que là, oh, il y a seulement 75 des 100 serveurs qui ont été encryptés qu'on est capable de ramener. Donc, c'est ce qu'on voit souvent, malheureusement, dans le marché ici.
C'est un peu triste que justement, là, on n'a pas autant, en tout cas, ça ne soit pas aussi donc, de sexiness pour les gens qui travaillent dans les SOC, puis on attire plus les gens dans les volets de gouvernance, parce que comme tu mentionnes, c'est justement c'est les gens dans les SOC qui font la différence. En tout cas, du moins au Québec, il n'y a pas cette culture-là. Est-ce que par rapport à ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des cultures qui favorisent davantage justement les endroits qui favorisent plus les gens dans les SOC que ce que j'appelle les gouvernateurs, là?
On le voit de plus en plus dans l'entreprise privée en Europe puis aux États-Unis. Donc, on voit un changement de ressources, mais c'est souvent, ça arrive après qu'il y ait eu un gros incident, malheureusement. Donc, mais ça aussi, c'est un phénomène qu'on voit au Québec. Mais au Québec, on va en même temps grossir encore plus les étages supérieurs. Donc, ça, c'est un peu malheureux. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas d'un background de cybersécurité, qui se ramassent dans les étages supérieurs aussi. Puis, souvent, le CISO, le chef de la sécurité ou la chef de la sécurité, sont pas au même niveau que les autres exécutifs. Ils vont être sous le CIO. Ils n'ont pas directement un accès au CEO de la compagnie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Une problématique qu'on voit partout. Mais au Québec, c'est plus prononcé. Parce que c'est rarement, j'ai jamais rencontré un CISO qui est directement sous le CEO au Québec.
Effectivement, puis j'ai même vu une organisation qui avait passé son rôle, n'était pas tout à fait au niveau du président, le CISO, mais il n'était pas très loin. Mais il a été descendu d'un étage, puis l'effet que ça a eu sur la sécurité de cette organisation-là, il est monumental en termes de réduction des efforts de sécurité, puisque la personne était beaucoup plus loin dans l'organigramme et donc moins d'accès facile à la haute gestion. Donc ça, c'est très important, puis j'ai vu des exemples réels par rapport à ça. Sinon, là, on va basculer vers les standards et le MITRE ATT&CK, qui sont quand même des éléments très importants. Moi, je fonde l'essentiel de mon travail sur ces éléments-là, puisqu'il y a des gens brillants qui se réunissent et qui réfléchissent ensemble sur des choses qui nous permettent de mieux collaborer, de mieux avancer notre travail. Et cet usage-là semble être un peu moins présent ici.
Oui, on démarque. Même on a fait un petit sondage pendant la conférence pour voir qui connaissait le MITRE ATT&CK Framework. Puis, il n'y avait pas grand monde dans la salle qui connaissait ça. On n'a pas de demande à ce niveau-là. Pourtant, c'est un des plus gros mouvements qu'on a vu dans le domaine de la cybersécurité. Enfin, on a un langage commun entre les attaquants, le red team, le blue team pour les défendants, puis les vendors comme nous. On peut savoir qu'un credential dump maintenant, c'est un T1003. C'est un T1003 pour tout le monde comme tel. Puis ça aide aussi à faire des métriques puis à comparer parce qu'avant, chacun des vendors avait un nom pour telle attaque qui était différent. Tout le monde avait son propre kill chain. C'était un peu le bordel. Puis même chose côté des attaquants. Des fois, ils utilisaient OWASP Top 10 pour décrire telle vulnérabilité. Des fois, ils utilisaient un autre. Mais c'est là que MITRE avec le Attack Framework, on est venu amener un langage commun, puis ça amène de l'ordre, puis aussi de l'interopérabilité entre les différents systèmes. Tu n'as plus à corréler que telle règle de Symantec, telle règle d'un autre vendor va être la même chose. C'est quand on map avec les techniques puis les sous-techniques de MITRE, ben là, c'est déjà fait. Donc, c'est la boule. Même dans le threat intelligence, dans les rapports, il n'y a pas juste des indicators of compromise, des adresses IP, puis ainsi de suite. Il faut avoir des MITRE techniques. OK? Faut s'élever au niveau du MITRE technique. Au lieu de rester en bas de la pyramide, la fameuse pyramide of pain, OK? Qui avait été créée, là, où on voit les IOC en bas, puis en haut, les TTP. Faut s'en aller vers les TTP. On a un langage commun. Donc, je dirais au monde d'aller lire tout de suite sur MITRE ATT&CK et commencer à l'utiliser comme langage commun. C'est l'anglais de la cybersécurité. Là.
Ça, c'en en est un, puis c'est effectivement essentiel justement qu'on puisse comparer, parce qu'en petite entreprise, c'est moins grave, mais en très grande entreprise où la multiplication des outils de sécurité de différents vendors, c'est une chose qui est très commune. Si on n'a pas ce langage-là, c'est juste, ça devient très difficile de comprendre comment ces outils-là font leur propre interprétation des différentes techniques qui sont utilisées par les attaquants. Puis c'est le MITRE est quand même une chose qui est vivante. Là. On peut pas, ils n'ont pas répété 100% de ce qui existe. Ils suivent l'évolution du marché, puis ce qui est très important. Puis je pense que dans la conférence, tu disais, Mandant, une nouvelle version qui s'en vient justement, qui va rajouter encore du contenu très intéressant, j'espère.
Il y a deux mises à jour annuelles, normalement en avril, puis l'autre en octobre. Donc, il y a deux mises. C'est community-based aussi. C'est que les vendors, les chercheurs indépendants, puis les vendors comme nous, on contribue à des nouvelles sous-techniques ou des nouvelles techniques, et ainsi de suite. Donc, c'est vivant, puis on le recommande fortement.
Oui, puis dans le fond, c'est ça, un point important. Puis ceux qui sont des donneurs des critères, des critères d'appel d'offres, mettez ça dans les critères. C'est très, très important que ça soit présent. L'autre élément, c'est la migration au SaaS, qui amène quand même un certain nombre de changements au niveau de comment les compagnies fonctionnent et comment aussi les outils de sécurité fonctionnent maintenant davantage en SaaS et qu'il y a des avantages quand même non négligeables.
Oui. Ben, la migration SaaS, là, c'est un point où le Québec est dans la moyenne. On suit la moyenne mondiale, donc on s'en va vers la migration SaaS, pas de problème. Puis il y a beaucoup d'effets positifs, comme la résilience, par exemple, qu'on parlait un peu plus tôt. Donc, j'ai jamais vu une console de EDR hébergée ou de EPP antivirus qui a été hackée quand c'est hébergé SaaS. Quand c'est on-prem, ça, on l'a vu à quelques reprises, parce que si ça roule sur l'OS qui a été installé par le client, puis si les credentials ont été compromis, ben, même la console se ramasse chiffrée. Donc, c'est bon pour la résilience. Il y a aussi la complexité qui est abstraite, okay, parce que ces nouvelles générations de produits-là utilisent beaucoup de big data, vont utiliser beaucoup de technologies avancées, de caching, et ainsi de suite, pour être capable de passer à travers 1 million de records en 1 milliseconde ou 3 millisecondes pour te retourner les résultats d'une requête de recherche. Ben, ça prend des méchants gros clusters et des data scientists, des personnes qui vont maintenir tout ça. C'est pas sûr que tu aies toute cette expertise-là à l'interne. Mon expérience me dit que non. La plupart ont de la misère à avoir des solutions qui sont gérées avec une base de données relationnelle standard qu'on utilisait dans les vieux produits on-prem, par exemple. Donc, pour ça, c'est un avancé. Il y a le côté tous ces data centers-là de SaaS, ils doivent être 5 ou 6, 9, OK, au niveau de la disponibilité. Ce que les gens n'ont pas vraiment dans leur propre data center. On migre de plusieurs zones, côte est, côte ouest, par exemple, dans un cloud qu'on nommera pas. On doit être ISO 27001, SOC 2, NIST 800-53 révision 3 ou révision 4. On doit être aussi faire sûr qu'on n'a pas de données nominatives, donc être compliant, pas compliant, c'est pas un bon mot, pour le GDPR en Europe. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire, je dirais, que la majorité des data centers que j'ai vus au Québec, puis j'en ai fait des audits de data centers, là, puis j'en ai vu des tuyaux de 4 pouces d'eau passer au-dessus des serveurs, dans les salles de serveurs. On n'a pas ça dans le SaaS, on n'a pas ça dans les clouds comme tels. C'est beaucoup plus sécuritaire à ce niveau-là que la plupart. Donc, moi, je dirais aux gens qui ont peur d'aller dans le cloud, montrez-moi votre certificat d'audit.
Il y a entre autres ça, puis de toute façon, ces solutions-là sont faites pour être résilientes. Donc, généralement, s'il y a une panne ou dans un des composants, il y a beaucoup plus de choses qui vont prendre des relèves, ce qu'on n'a pas sur site généralement, parce que c'est beaucoup trop dispendieux. Mais de toute façon, dans l'ensemble, c'est toujours trop dispendieux sur site de mettre ces énergies-là, quand l'effet de mutualisation des cloudeurs permet justement de partager le coût de cette capacité-là, de cette amélioration de sécurité, de résilience sur beaucoup plus de personnes, donc à un coût qui est essentiellement beaucoup plus abordable pour ça. Puis l'autre chose, puis tu n'as pas mentionné, puis je trouve important, parce que au niveau du XDR, entre autres, c'est que comme on travaille à la maison depuis les deux dernières années, quand les gens sont à la maison, le fait d'avoir une console centralisée au bureau, quand les gens sont tout le temps à la maison, fait plus de sens. Parce que ouais. Les gens, les postes peuvent passer plusieurs jours, voire semaines, sans parler à la console. Quand on parle d'antivirus et toutes ces nouvelles XDR, c'est qu'il y a un certain nombre de signatures d'amélioration des engins de détection qui doivent redescendre, mais qui ne redescendent pas. Donc, mettre à risque ces machines-là.
Oui, en fait, toutes les analytiques, normalement, sur les télémétries, tout ça, ça se fait dans le cloud comme tel. T'as pas nécessairement ça dans un... Puis ça, c'est mis à jour plusieurs fois par semaine par les threat analysts ou les data scientists parce qu'il y a beaucoup de machine learning là-dedans. C'est normal. Donc, t'as pas ça dans les solutions on-prem, malheureusement. Donc, les gens install and forget. Hein? Ils vont faire l'installation du bon vieux antivirus de l'époque ou du EDR on-prem, puis il l'oublie pour 3 ans. Et puis il n'est pas mis à jour pour 3 ans. Ou il y a très rarement des mises à jour. Il y a des mises à jour juste quand ça pose un problème avec, par exemple, ils vont migrer 2-3 ordinateurs qui sont à la maison en Windows 11. Mais ils n'ont pas mis l'agent à jour depuis 3 ans. L'agent, lui, il ne connaît pas Windows 11. Il était fait dans le temps que c'était Windows 10. Fait qu'il faut que tu mettes à jour là, ton agent. Les consoles SaaS sont mises à jour plusieurs fois par semaine. Puis les agents, chez la majorité des vendors, sont faits mensuellement. Donc, c'est pas vrai que tu vas être 3 ans en retard comme dans la plupart des bons vieux produits de l'époque. À ce moment-là, tu peux vite t'adapter parce qu'avec le work from home qu'on a eu dans la période du COVID, ben, y a des gens qui ont dû fournir, des employés de l'État ou même de compagnies privées qui ont dû fournir leur propre laptop. OK? Puis ils ont acheté un nouveau laptop, puis le nouveau laptop est arrivé avec Windows 11. Fait que c'est même plus géré, le matériel est même plus géré par l'entreprise. Donc, tu dois avoir des. Puis là, tu ne peux pas leur dire, ben là, tu vas installer Windows 10 sur ton. Ben non, le laptop, il m'appartient. Fait que non, toi, ouais, mais nous, on ne supporte pas, l'agent, il ne supporte pas. Fait que c'est pour ça que les solutions SaaS, ils s'adaptent plus à la nouvelle réalité, que ce soit Windows ou même les versions d'Apple ou même toutes les versions de Linux. Mais des Linux en desktop, il n'y en a pas beaucoup à part des gens comme toi et moi.
Oui, il faut un certain niveau de motivation pour utiliser ce genre de choses-là. C'est pas encore à la portée de tout le monde d'utiliser un Linux comme desktop. Là.
Oui, c'est ça.
Le volet suivant, c'est l'automatisation, qui est justement le volet de réponse automatique généralement, mais qui est quand même beaucoup plus complexe que ça aussi.
Oui, L'automatisation, ben, c'est comme dans l'industrie au Québec, dans le fond. Notre industrie au Québec ne s'automatise pas. On n'investit pas dans l'automatisation. Ben, en cybersécurité, c'est un peu la même chose. On ne voit pas une grosse demande pour les SOAR, par exemple. On n'a pas une grosse demande aussi pour les API, REST, Webhook ou autres, comme on a dans d'autres marchés. Donc, pour ça, on est en automatisation, comme pour le reste des autres industries au Québec, on est en retard au niveau de l'automatisation. On fait encore beaucoup de manuels. Mais on ne peut plus faire du manuel parce qu'on l'a vu au niveau des attaquants dans le premier volet, qu'on est passé de 53 jours à 3 jours et à 6 heures pour un ransomware. Donc, si tu ne réponds pas rapidement, ben, tu as plus de chances d'être tout encrypté. Donc, c'est là que l'automatisation des processus, ouvrir l'étiquette, mais aussi isoler les machines le plus rapidement possible, c'est important. Puis, tu n'as pas, comme on le sait, on a une moyenne de 2 à 3 personnes en cybersécurité au niveau opérationnel en bas. Donc, ils n'ont pas le temps de tout faire. Fait que c'est pour ça que l'automatisation vient les aider à faire les tâches les plus répétitives, mais qui demandent aussi une réponse rapide, surtout le soir, aussi la nuit, parce qu'on n'a pas des équipes 24/7, tout le monde. Donc, l'automated response, l'automatisation, c'est hyper important. Puis, il y a des standards là-dedans, OpenC2, Cacao. OpenC2, c'est en baisse, Cacao, c'est en montée. Ça, c'est au niveau de la standardisation des playbooks, parce que là, tu as plein de vendors, SOAR, qui ont différents formats pour les playbooks. Cacao essaie d'amener une certaine ordre là-dedans pour que tu en puisses prendre un playbook de IBM qui soit compatible avec un playbook de Splunk, par exemple. Donc, les deux ont des SOAR, c'est pas juste des vendors SIM. Donc, on peut passer d'un à l'autre. Donc, ça, je fonde un peu plus d'espoir là-dessus au niveau Cacao. Mais l'automatisation, c'est rendu un feature. C'est plus rendu un produit. Donc, ceux qui disent, il faut que je m'achète un SOAR. Non, la plupart des outils de sécurité devraient avoir de l'automatisation intégrée. C'est rendu un feature. C'est une fonctionnalité et non pas un type de produit.
Ah, c'est essentiel, surtout avec le manque de main-d'œuvre qu'on a en cyber. Puis en plus, comme tu mentionnes, qu'au Québec, on a une pyramide inversée, c'est encore pire. Et justement, cette absence de gens-là qui sont capables de manipuler, c'est essentiel. Sinon, on passe du temps, puis tout le côté de la fatigue des alertes, tout ce qui entoure ça. Puis c'est pour avoir été gestionnaire d'incidents à quelques reprises, sans réponse automatique, on ne peut pas juste s'en sortir, on va mourir parce que les attaquants, eux, ont automatisé. Fait que si on n'a pas automatisé à la même vitesse qu'eux autres, on est juste foutu parce que les autres vont rouler à des vitesses qui sont inaccessibles humainement.
Oui, puis on va le voir quand ils vont commencer à intégrer de l'IA, plus de IA dans les agents, par exemple. Là, on voit que les attaques ont des humains derrière. Mais quand ils vont, alors là, la vitesse va encore croître davantage. Ça va être non pas en heures, mais en minutes. Puis il va falloir que tu réagisses rapidement dans ton réseau. Il va falloir que ça s'auto-isole rapidement quand tu atteins un certain niveau de menace.
Oui, puis en fond, c'est la chose utile pour basculer au prochain point qui était le Zero Trust, justement, qui est une approche de design des réseaux, mais pas juste des réseaux qui sont quand même plus vastes que ça, dans lesquels on vient changer la fluidité de l'information qu'on a habituée à l'intérieur.
Oui, au niveau Zero Trust, le Québec suit la tendance. OK, on a la même demande. Puis le Zero Trust Architecture, les vendors n'ont pas le choix d'aller là-dedans parce que ça amène. C'est un peu comme passer de l'ancien monde VPN au Zero Trust Architecture. C'est que aussi, on avait des flat networks, des réseaux complètement plats avec sans segmentation. Puis, on trustait tout le monde qui était connecté dans le RJ45, bien, il était trusté. Bien, là, maintenant, on s'est aperçu qu'il ne faut plus faire ça. Il faut dire faut vraiment assigner les droits. C'est un peu comme dans les Forces armées canadiennes, on avait le need to know. OK? Tu as ta code de sécurité, mais as-tu le need to know pour les affaires d'aviation? Mais tu es dans la marine. Donc, non, tu n'as pas le need to know, donc tu n'as pas accès. Donc, il faut faire de la granularité au niveau des accès des applications. Puis tu as accès seulement au port 443, au port à partir quand tu es authentifié deux facteurs, puis ainsi de suite, à telle application. Et non pas open bar dans le réseau comme on a actuellement. Donc, le Zero Trust, ça peut ralentir énormément un attaquant aussi. Donc, ça, c'est une des belles choses. L'attaquant n'aura pas, et quand même qu'il a accédé à certains credentials, il ne pourra pas voir le serveur à partir d'un poste client parce que ce poste client-là n'a pas accès à ces ports-là sur le réseau, sur ce serveur-là, donc seulement à l'application qui est hébergée sur le... Donc ça va ralentir beaucoup, puis ça va vous permettre justement une certaine résilience, puis te permettre de répondre adéquatement juste à temps. Donc, Zero Trust Architecture, ça, on se situe au même niveau que tout le monde, puis d'ailleurs, ils ont un très beau document du NIST, le NIST 800-207, que je recommande, c'est comme... Puis le CISA aussi, CISA a fait du US Homeland Security, a fait des documents sur Zero Trust Architecture. Je recommande aux gens d'aller lire ça. C'est indépendant des vendors, donc il n'y aura pas le hype marketing que certains vont essayer de te pousser. Donc, mais ça te permet d'aller t'éduquer sur le Zero Trust.
Très intéressant, effectivement. Puis ça limite les mouvements latéraux, qui est actuellement le plus grand dommage que font les attaquants. Là. Fait qu'on arrive à quelque chose. Puis c'est intéressant parce que le point suivant que tu as mentionné, c'est la surface d'attaque, qui est une nouvelle approche à regarder comment on analyse notre posture et voir qu'est-ce qu'on finalement on fait avec après. Là.
Oui, la surface d'attaque, justement, c'est on l'a vu, les entreprises connaissent pas toute la surface d'attaque interne puis la surface d'attaque externe. Donc, oui, il y en a qui font du vulnerability management, donc qui scannent pour des vulnérabilités ou autres, mais la découverte de la surface d'attaque, c'est comme une coche au-dessus, parce que là, on va aller chercher plus d'informations au niveau des endpoints, mais aussi au niveau des usagers. Puis on va attribuer des risk scores ou des index de risque sur chacun des individus, mais aussi des endpoints en fonction des behaviors, mais aussi des vulnérabilités qu'on peut trouver sur ces postes-là comme tels. Donc, deux postes identiques pourraient ne pas avoir le même score. Vont avoir le même score, mais les usagers, un usager serait plus téméraire sur un poste, puis l'autre usager est moins téméraire. Ben, l'usager plus téméraire, ben lui, il va sur certains sites, puis ainsi de suite. Ben lui, il va avoir un risque, un score plus élevé. Donc, c'est important d'avoir ça. Même chose pour le External Attack Surface, parce que là, on découvre des assets, des actifs qu'on ne connaissait même pas. Et puis là, on le voit avec le Zero Code aussi, avec tout ce qu'on a, le No Code, le Zero Code, tout ce qui est des outils qui permettent de développer des applications sans être programmeur. Donc, ça, c'est un peu dangereux parce que c'est là qu'on découvre des fichiers Excel avec des données nominatives qui sont hébergées dans un Google Sheet, par exemple, sans droit d'accès. Donc là, tout le monde a accès aux données, mais il y a quelqu'un au marketing qui a eu l'idée ou au RH ou autre qui a eu une idée de se faire une petite application pour automatiser ces processus. Fait que lui, c'est bon, là, il est dans le domaine de l'automatisation. Bravo pour ce côté-là. Mais ça peut être ça a bypassé tout le département de cybersécurité parce qu'il l'a fait, parce que là, il avait demandé une application depuis 5 ans, il n'a jamais eu son application, fait que là, il s'est fâché, il a fait sa propre application lui-même. Puis là, c'est là qu'on découvre, en ayant des scans d'attack surface externe, ça nous permet de trouver ces assets-là de l'entreprise qu'on ne connaissait pas puis de les fermer au plus vite. Donc, ouais. À l'interne et l'externe qu'il faut faire.
Absolument. Déjà qu'on a de la misère à respecter par les développeurs les règles de sécurité, le simple utilisateur a encore moins d'idées de ce qui s'expose. Fait que là, on est dans une situation qui est aggravée, là, puis le no-code a ce désavantage-là. Puis moi, de mon expérience, dans les deux dernières années au moins, j'ai vu qu'au Québec, on avait de la misère à maîtriser la gestion des vulnérabilités. Fait que ça, c'est d'aller à l'étape suivante de gestion de la surface d'attaque. On est pour moi littéralement pas là. Je vois des balbutiements, mais moi je vois rien. Mais par rapport à ce que tu vois ailleurs, est-ce que c'est vraiment en vogue ou seulement sur des entreprises de très grande envergure?
Je dirais c'est plutôt des entreprises de grande envergure qui sont là. Ou encore d'autres qui ont été des victimes il n'y a pas longtemps, qui vont faire leur recherche là-dessus. Puis, il y a quelques petits vendors dans le domaine, OK? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clients, ces gens-là. Mais on voit quand même une demande, parce que même les plus gros publieurs de logiciels comme nous, on commence à intégrer ces principes-là, ces fonctionnalités-là dans nos offres aussi. Et là, on publie ces dashboards, tableaux-là à nos tableaux de bord. C'est la haute direction à ce moment-là qui est très... qui veut voir ça. Okay? Parce que là, eux, ils voient que, j'ai une exposure qui est plus que mon petit site web. Il y avait un projet qu'on a oublié il y a longtemps, puis qui n'a pas été fermé, puis qui est là, puis qui a des accès. Donc là, c'est ceux justement qui sont en gestion du risque, le CISO, puis et ces gens-là qui vont apprécier de voir la surface d'attaque de l'entreprise. Ça aide le CISO à aller chercher les budgets, je dirais. Fait que c'est des outils qui vont aider le CISO à aller voir le CFO, Chief Financial Officer, puis aller quêter du budget, chose que je faisais dans le temps moi aussi, quand j'étais dans ces fonctions-là. Donc, t'as le CEO puis le CFO, puis tu dois être bien ami avec eux. OK? Parce que c'est eux qui donnent l'argent. Donc, et sans argent, tu ne peux pas implanter des mesures de sécurité. C'est le nerf de la guerre.
Absolument. Ouais. C'est très important d'avoir l'argent pour financer les projets.
Ah oui.
Basculons à l'autre, puis cela, ça touche un peu plus les vendors comme vous autres, le Breach Attack Simulation, qui vient simuler comment les groupes ou les attaquants typiques vont procéder et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les outils comme ce que vous vendez. Là.
Oui, bien ça, le Québec est en arrière. J'ai jamais vu, c'est quasiment inconnu quand on dit on fait des intégrations avec des BAS. C'est quoi les BAS et les BAS, les Breach and Attack Simulation? Bien, c'est important parce que ça permet de voir si tes contrôles dans l'entreprise sont justement par rapport à la MITRE ATT&CK, à la matrice de MITRE ATT&CK, si tu peux détecter les différentes techniques et sous-techniques. Donc, ça permet d'émuler les adversaires et tester tes contrôles de sécurité. Puis, c'est moins qu'un pen test, mais c'est plus qu'un scan de vulnérabilité. OK? Donc, mais par contre, il faut vraiment que ces solutions-là soient intégrées avec les outils que tu as. OK? Parce que sinon, les scores, les résultats que tu vas avoir vont être. Seront pas bons. OK? Dans le sens que si l'outil de base n'est pas intégré avec ton vendeur Trendmicro ou un autre, ben, il ne peut pas aller chercher les résultats pour les détections. Et à ce moment-là, ton score va être bas, mais ce n'est pas vrai parce que, dans le fond, tu l'as détecté, c'est juste qu'il ne sait pas. Donc, il faut s'assurer d'avoir des outils BAS qui sont intégrés avec les outils EDR ou XDR qu'on a. Sinon, ça ne va pas donner les bons résultats. Ça va générer beaucoup de gestion de conflits avec tes différents vendors. Puis tu vas perdre beaucoup de temps à ce moment-là. Donc, c'est bon à avoir ces outils-là. Puis j'encourage les gens à en avoir, mais vérifier que ce soit compatible avec ce que vous avez, ou que ce soit sur le roadmap ou ainsi de suite, parce que sinon, ben, vous allez être déçu des scores. 42%, ça ne se peut pas, 42% de détection. Mon outil, il n'est pas bon. Il faut que je change tout de suite. Puis quand tu es intégré, ben là, tu vas avoir les scores traditionnels, 95, 97, 99%, puis ainsi de suite. OK? Puis là, ça varie toujours en fonction de la configuration puis des policies que tu vas faire aussi. Donc, le produit, il peut bloquer telle attaque ou la détecter, mais seulement si tu as activé, mettons, l'anti-ransomware. Ça paraît niaiseux, mais il y a des gens qui n'activent pas la fonction anti-ransomware dans certains produits qui ont cette fonction-là. Donc, si tu fais un test BAS pour les top 10 des familles de ransomware, tu ne vas pas avoir le même score si tu actives cette fonction-là que si tu ne l'actives pas. Donc, il y a toujours aussi le côté configuration des produits. Puis là, ben, c'est là que tu vas te ramasser avec beaucoup d'appels au support.
Oui, ben j'imagine, puis par expérience, puis c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, ce type d'outil-là, parce que c'est une espèce de contrôle qualité en continu de comment tes configurations vivent, parce qu'un, comme tu mentionnais, les outils évoluent rapidement, les options de configuration évoluent rapidement, puis des fois, dans des changements, on a des éléments, les gens ferment des fonctions ou oublient d'activer certaines fonctions qui sont comme fondamentales à la qualité de la protection. Donc, ça vient comme rattraper ces éléments-là pour s'assurer qu'on est toujours dans un état de sécurité, que la perception est égale à la réalité.
Nous, on veut le ramener aussi dans l'attack surface, justement. Dans l'attack surface, on va dire, ben, tu n'as pas activé le behavior monitoring ou le machine learning. Ben, ça a un effet sur le score parce que c'est des fonctions que tu as en termes de protection, mais tu ne les as pas activées. Donc, tu as l'analyse d'attack surface qui te le dit, mais tu as aussi le breach and attack simulation qui te le montre via une attaque. Donc, c'est bien. Ça ne remplace pas des vrais pentesters. Ça va te prendre tes pentests comme tel une fois ou deux par année. Mais c'est bien de faire ça. Puis tu peux même faire des exercices avec ton blue team et ton purple team avec ça aussi.
Ben c'est ça, c'est super intéressant, ça mène plus loin. Puis justement, tu as abordé le dernier sujet qui est le machine learning puis l'intelligence artificielle.
Oui. Au Québec, ça, on se carrait un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Il y a des endroits dans le monde où c'est presque inexistant la demande pour l'IA comme tel. Donc, pour ça, c'est un des deux ou trois domaines où on était en avance sur le marché des autres. Nous, par exemple, on a une trentaine d'applications de l'AI, puis du machine learning, même aussi du deep learning dans nos applications. J'en ai une douzaine de nouveaux modèles qui sont en cours de développement aussi. Ça ne fait que croître ce domaine-là. Donc, il faut l'utiliser. Souvent, par contre, on voit que les gens vont l'avoir désactivé. Je ne sais pas si c'est une peur du faux positif ou autre, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont fait des faux positifs, comme toute technologie heuristique ou behavior ou ainsi de suite, vont faire des faux positifs. Mais faut le tester, faut demander des changements au modèle aussi si on a un faux positif. Il ne faut pas avoir peur d'appeler le vendeur et leur dire qu'il y a eu un faux positif pour faire ajuster le modèle. Puis ça, normalement, ils devraient être capables de le faire dans les jours qui suivent. Okay? Ça dépend aussi. Il y en a qui vont avoir des modèles hébergés dans le cloud. Donc, eux peuvent faire des changements très rapidement. Puis il y en a qui vont avoir des modèles hébergés sur le poste, dans l'agent. Là, c'est un peu plus dur parce que là, tu dois mettre à jour des signatures, des modèles sur les postes, fait que là, à déployer, fait que ça peut être un petit peu plus lent. On parle de semaines à ce moment-là qui peut être fait, puis même peut-être plus aussi. Donc, il faut voir c'est quoi que notre vendeur supporte, Puis il y en a partout. On en a pour l'anti-spam, il y en a pour même pour le Zero Trust. On a une douzaine de modèles pour le Zero Trust qu'on a développé. Il y en a au niveau l'intrusion comme telle, les contrôles, le mouvement latéral comme tel, comme je disais, Zero Trust. Mais ce que vous devez regarder, ça va être plutôt justement différencier le bon du mauvais. Okay? Donc, on a des attaquants qui utilisent les lolbin qu'on appelle ou les binaires de Windows, okay, ou des binaires de d'autres vendors comme Adobe. Faut que tu distingues la bonne utilisation de la mauvaise utilisation. Fait que là, ça peut être un endroit où ce que le machine learning, je dirais aux gens d'investir, pour pouvoir déterminer si c'est du bon PowerShell versus du mauvais PowerShell, c'est du bon cert util versus du mauvais cert util, et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être... mais donner une suggestion, au moins au SOC analyst pour qu'il puisse prendre finalement, l'humain puisse prendre la décision à la fin.
Absolument. De toute façon, avec la quantité de données, tu parlais de Data Lake tantôt, c'est impossible pour un humain de traiter cette quantité-là. Fait qu'on est obligé d'utiliser ces modèles-là. Mais dans tout cas, je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur, parce qu'en général, on est capable d'utiliser ces outils pour faire de la détection en premier. Et minimalement, ça met dans les mains de l'analyste ensuite la décision finale. S'il y a dite inquiétude que ça puisse briser quelque chose, on revient toujours à ça. On se garde toujours la capacité comme SOC analyste de pouvoir intervenir et se garder ce pouvoir-là. Fait que pourquoi ne pas servir ces outils-là quand ils sont à notre disposition? Et je trouve ça le fun qu'au Québec, on est un peu plus ouvert que la moyenne.
Pour ça, je pense que l'intelligence artificielle, ça a bien été... il y a eu du bon marketing. On a des gens, des sommités dans le domaine, donc ça a bien passé. Tandis que dans d'autres marchés, il y a des gens qui ont une peur. Oui, il peut y avoir des problèmes au niveau de la vie privée et autres, mais si le machine learning est mal utilisé. Ce qu'on voit aussi, c'est l'abus des modèles de machine learning. Il y a des outils qui ont même été créés, tu peux en trouver 3-4 dans GitHub, qui te permet d'abuser. Donc, tu as 300 features pour un fichier, puis ils vont pouvoir te générer un fichier qui va bypasser tel modèle de détection. Donc, on a des pentesters créatifs, puis il y a des pentesters maintenant qui s'éduquent au niveau du machine learning et qui vont développer ces outils-là. Donc, c'est pas parfait. Il n'y a aucun système de détection qui est parfait. S'il y avait des systèmes parfaits, on n'aurait pas les problèmes de cybersécurité qu'on a. OK? Des pentesters trouvent plusieurs fois par jour des façons de contourner les modèles de sécurité, puis c'est un domaine de... C'est le chat et souris, un jeu de chat et souris tout le temps, puis il faut s'améliorer constamment. Puis le machine learning, par contre, c'est là pour aider, parce que c'est pas vrai que l'humain peut traiter tous ces événements-là. Il y a trop d'événements. Donc, aller plonger dans le machine learning ou dans l'IA, c'est une des... et puis, ça se connecte avec les autres tendances qu'on a vues, l'automatisation et autres.
Oui, puis on va conclure sur ça. Super intéressant. Merci pour ton temps. Merci pour ta générosité, parce que c'est toujours très pertinent, ce partage-là que tu fais de tes connaissances, de ce que tu vois. Moi, je suis toujours très, très... plus brillant après cette conversation-là. Donc, merci beaucoup. Et je te laisse le mot de la fin.
Bien, merci de l'invitation, puis merci de votre temps. Puis c'était un super bel événement, Sécure. Puis je vais sûrement y retourner, puis comme participant l'année prochaine, parce que j'ai bien aimé ça. Je dis à tout le monde, ratez pas Sécure 2023.